Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. L'heure de retrouver, comme tous les soirs, votre journal en français facile, avec à la une ce gouvernement d'union approuvé aujourd'hui en Israël par le Parlement. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz étaient encore ennemis il y a quelques mois. Ils devront désormais gouverner ensemble et s'échanger leur poste dans 18 mois. On en parle dans un instant. Voilà de quoi réjouir les commerçants et redonner des couleurs à l'économie thaïlandaise après une longue fermeture face au coronavirus. Les centres commerciaux ont rouvert ce dimanche, c'est là que se fait une grande partie des achats dans le pays. Aux États-Unis, Barack Obama ne mâche plus ses mots, comme on dit. L'ancien président, d'habitude discret, a critiqué, sans le nommer, son successeur Donald Trump et sa gestion de la pandémie. Et puis au Mexique, la mort d'un journaliste tué ce matin avec les policiers qui l'escortaient. C'est le troisième journaliste tué dans le pays cette année.
Julien Coquel-Rohem.
C'est la fin de la plus longue crise politique de l'histoire israélienne. Voilà les mots de Benny Gantz il y a quelques heures à Jérusalem, lui qui aura combattu Benjamin Netanyahou dans les urnes pendant plus d'un an, au cours de 3 élections législatives, est devenu son vice-premier ministre. Pour la première fois en près d'un an et demi, le pays est doté d'un gouvernement de plein exercice. Le Parlement israélien a accordé sa confiance à cette équipe dirigée par le premier ministre sortant. Pour les prochains 18 mois, Benny Gantz prendra sa succession par la suite. Reste à voir si cette alternance fonctionnera. Mais les deux hommes pourront au moins compter sur une large majorité, Guilhem Delteil.
Ce sont 73 députés sur 120 qui ont finalement accordé leur confiance à ce nouveau gouvernement ce dimanche. Très loin de la barre des 61 députés, la majorité absolue qui, depuis plus d'un an, était inaccessible aux deux candidats au poste de Premier ministre. Faute de parvenir à former une majorité, les deux rivaux, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz ont finalement décidé d'unir leurs forces. Tous deux ont le titre de Premier ministre, l'un en exercice, l'autre dit alternant. Et si le chef du gouvernement est actuellement Benjamin Netanyahou, une date de passation du pouvoir avec Benny Gantz a d'ores et déjà été annoncée. Ce devrait être le 17 novembre 2021. Nous aurions tous deux aimé former un gouvernement différent, a reconnu Benny Gantz dans son discours à la Knesset en début d'après-midi. Mais les deux dirigeants ont invoqué un esprit de responsabilité. Les Israéliens veulent un gouvernement d'union, c'est ce qu'ils auront, à juger pour sa part Benjamin Netanyahou, mettant en avant le coût de l'organisation d'un quatrième scrutin législatif en pleine crise économique liée au coronavirus. Guilhem Delteil, Jérusalem, RFI.
C'est peut-être la fin d'une autre crise politique, celle-là en Afghanistan. Le président reconnu par la communauté internationale, Ashraf Ghani, a signé aujourd'hui un accord de partage du pouvoir avec son rival Abdullah Abdullah, qui s'est déclaré président en même temps que lui le 9 mars dernier. Il sera chargé des négociations de paix avec les talibans qui n'ont pas avancé jusqu'ici. Le pays connaît ces dernières semaines une flambée des violences. Le secrétaire général de l'OTAN salue la décision des deux dirigeants de résoudre leurs différends, c'est-à-dire leurs désaccords, et de former un gouvernement inclusif. Les États-Unis font de même, mais regrettent le temps perdu pendant l'impasse politique. Du côté du Bangladesh, c'est le sort de centaines de réfugiés Rohingyas secourus en mer qui préoccupe les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU demande aux autorités du pays de les transférer vers des camps de réfugiés. 300 membres de cette minorité musulmane qui fuit les persécutions en Birmanie sont actuellement sur une île où le risque de cyclone est grand. Le Bangladesh explique qu'il craignait que ces réfugiés soient porteurs du coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères répond aux pays inquiets d'accueillir eux-mêmes des Rohingyas ou de faire pression sur la Birmanie pour permettre leur retour.
Le journal en français facile.
Plus de 313 000 morts du coronavirus à travers le monde, selon les chiffres officiels. Certains pays commencent tout de même à tenter le retour à la normale. La Thaïlande a franchi aujourd'hui une nouvelle étape dans ce sens. Les centres commerciaux ont rouvert, une décision très attendue par les commerçants et les milieux d'affaires, Carole Issou.
Il faut dire qu'une partie très importante des transactions commerciales dans les villes thaïlandaises se font dans ces malls, d'immenses centres commerciaux sur plusieurs étages. On y trouve aussi bien des vêtements que des meubles, des cosmétiques, de la nourriture, mais aussi des banques, des cinémas, des salons de coiffure, des boutiques de toutes les tailles. C'est donc un soulagement pour tous ces commerçants. Réouverture aujourd'hui également des piscines, salles de gym, musées et restaurants à air conditionné. Le couvre-feu passe de 22 à 23 heures. Bref, on est presque revenu au monde d'avant. Même si les frontières restent fermées jusqu'à la fin du mois de juin au moins, le gouvernement a déjà annoncé que les touristes asiatiques, dont les Chinois, seront autorisés à revenir avant les Européens. À l'Assemblée, certains députés commencent à discuter de la levée de l'état d'urgence. Carole Izou, Bangkok, RFI.
Alors que les États-Unis, pays le plus touché du monde par la pandémie, s'apprêtent à franchir la barre des 90 000 morts du coronavirus, l'ancien président américain Barack Obama est sorti de sa réserve et a durement critiqué la gestion de la crise par son successeur Donald Trump. Sans mentionner le nom de l'actuel président, Barack Obama a estimé entre autres que la pandémie avait enfin enterré l'idée que tant de nos responsables savent ce qu'ils font. Des propos tenus lors d'une remise de diplôme virtuelle pour des étudiants afro-américains. Pourquoi cette sortie publique maintenant? Y a-t-il un lien avec les attaques de Donald Trump qui évoque depuis quelques jours un complot contre lui, surnommé le Obamagate? Les explications de Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris-Assas.
Absolument pas. Et je suis bien placé pour vous le dire, puisque mon livre consacré à Joe Biden s'appelle « Le troisième mandat de Barack Obama ». Et que je termine ce livre en expliquant qu'à partir du moment où Joe Biden aurait gagné les primaires, Barack Obama sortirait du bois, comme on le dit actuellement, et interviendrait dans la campagne en critiquant Donald Trump. C'est exactement ce qui s'est passé, mais tout ça, c'était écrit comme sur du papier à musique, parce que le projet de Joe Biden, c'est de ramener tout le monde au 8 novembre 2016, d'effacer Donald Trump et de reprendre le cours de l'histoire, c'est-à-dire la fin du mandat de Barack Obama. Et on est bien dans la continuité de Barack Obama. Pendant toute la campagne, Joe Biden nous a expliqué qu'il allait poursuivre l'œuvre de Barack Obama, reconstruire ce qui avait été fait, ça veut dire re-signer l'accord de Paris, re-signer un accord sur la non-prolifération nucléaire avec l'Iran, reprendre la construction de l'Obamacare, on peut en passer, bien sûr, en faisant toute la liste. Tout ce que Donald Trump a déconstruit pendant son mandat, eh bien, Joe Biden va le reconstruire.
Jean-Éric Brana, auteur du livre « Joe Biden, le troisième mandat de Barack Obama ». Il était joint pour RFI par Harim Lipold. RFI, 22h07, au Caire, en Égypte, où la rédactrice en chef du journal indépendant, Madame Masseur, souvent critique du régime en place, a été arrêtée aujourd'hui avant d'être libérée sous caution, c'est-à-dire contre une somme d'argent. Lina Atala interviewait la mère d'un opposant en grève de la faim devant la prison où il est détenu. Quand les policiers l'ont interpellé, la police avait déjà inspecté les bureaux du journal en novembre. Il fait partie de la centaine de sites d'information bloqués dans le pays par les autorités. Et puis, c'est une autre nouvelle inquiétante pour le journalisme à l'autre bout du monde, au Mexique. Le journaliste Jorge Armenta Avalos, directeur du groupe de presse El Tiempo y Medios Opson, a été assassiné samedi dans le sud de l'état de Sonora. C'est le troisième journaliste tué dans le pays depuis le début de l'année. Il était pourtant placé sous protection, Juliette Garbrandt.
Il était 15h quand Jorge Armenta et son escorte ont été visés à la sortie d'un restaurant par des tireurs qui les attendaient à bord d'une voiture. Les deux victimes sont mortes à l'hôpital. Arrivé sur place après avoir entendu des rafales d'armes à feu, un journaliste du site d'information Medios Opson, l'un des médias du groupe de Jorge Armenta, a diffusé en direct la course des voitures de police jusqu'à l'hôpital. Les attaquants, eux, ont échappé à la poursuite. Jorge Armenta Avalos avait reçu des menaces de mort et il bénéficiait du mécanisme de protection mis en place par le ministère mexicain de l'Intérieur pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. La gouverneure de l'état de Sonora a demandé que le parquet diligente rapidement une enquête. Aucun motif des tueurs n'a été évoqué pour l'instant. Jorge Armenta est le troisième journaliste assassiné depuis le début de l'année au Mexique. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour la profession. Reporters sans frontières a recensé 10 victimes l'an dernier et souligne que dans le pays, 92% des assassinats de journalistes restent impunis.
Juliette Garbrandt, c'est avec elle qu'on termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter et le lire sur le site d'RFI Savoir. On s'y retrouve quand vous voulez.
Appelez-nous, exprimez-vous.